profond des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelles et fictions imaginaires, enquête sur d'étranges affaires. Salut tout le monde, au programme ce soir, les apparitions mariales et le phénomène OVNI, de troublantes similitudes. Et pour commencer notre émission, nous écouterons Take It Easy des Eagles.
The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. And take it easy. Well, I'm standing on a corner in Winslow, Arizona. And such a fine sight to see.
Phénomènes étranges, je vais vous parler aujourd'hui des apparitions mariales, hein, la Sainte Vierge, Poupouf, qui apparaît, et le phénomène OVNI. Alors certains vont se dire, tiens, quel rapport? Ben, vous allez voir qu'il y a peut-être des concordances. Alors ce texte est tiré d'un texte de Magali Cazotte, qui est passionnée par tout ce qui touche à l'inexpliqué, et elle s'adonne à l'écriture depuis l'âge de 20 ans pour partager avec le grand public le résultat de ses recherches. Elle est aussi l'auteur de plusieurs romans initiatiques, dont le dernier, L'impossible confession, ou La renaissance de la flamme cathare, qui a été publié en 2009 aux éditions Alphée Jean-Paul Bertrand. Elle se consacre exclusivement à l'étude des mystères du christianisme qui l'ont amené à faire des découvertes stupéfiantes, ces dernières lui ayant permis, entre autres, de résoudre l'incroyable énigme du sanctuaire. Enfin, du moins d'en donner une explication assez pointue. Alors, dès que l'on commence à étudier l'historique des apparitions mariales, on est immédiatement frappé par l'ampleur du phénomène, lequel n'a cessé de croître depuis la fin du XIXe siècle. Pour le seul XXe siècle, l'historien Yves Chiron a répertorié pas moins de 362 cas, et la journaliste Marie-Thérèse de Brosse nous précise qu'entre 1928 et 1975, 230 cas d'apparition mariale suffisamment crédibles pour être retenus ont été rapportés. Il faut noter aussi que dans la liste établie par Yves Chiron, les manifestations de la Vierge aux chrétiens coptes ou orthodoxes ne sont pas recensées. De plus, dans la majorité des cas, la Dame de Lumière apparaît à de multiples reprises, ce qui augmente considérablement le nombre total des apparitions. Face à une telle recrudescence, les autorités ecclésiastiques manifestent généralement un certain embarras, ces dernières désirant conserver le caractère exceptionnel de ce type d'événement, pour n'en reconnaître officiellement qu'une infime minorité. Cependant, comme nous allons le voir, la plupart des apparitions présentent des caractéristiques identiques ainsi que des liens plus ou moins évidents avec les manifestations de type ufologique. Et c'est là que ça devient intéressant. De juin 1981 à octobre 1985, l'affaire de Medjugorje en ex-Yougoslavie défraya la chronique et connut une popularité qui ne s'est jamais démentie jusqu'à nos jours. Plusieurs membres du clergé, en collaboration avec des scientifiques, ont étudié les phénomènes qui s'y produisaient avant de reconnaître leur nature inexplicable. Mais en dépit de ces enquêtes rigoureuses, l'Église de Rome refuse toujours de reconnaître la surnaturalité de ce cas. Il n'empêche que l'immense majorité des apparitions non reconnues par l'Église romaine, mais qui peuvent l'être par d'autres, comme cela se produisit avec les apparitions de Zaytoun en Égypte, où l'Église orthodoxe reconnut leur authenticité, n'en sont pas moins dignes d'intérêt que celles qui furent authentifiés. Il est donc impossible de les rejeter arbitrairement si l'on désire étudier le phénomène dans sa globalité. C'est pourquoi, dans la suite de notre propos, nous ne tiendrons aucun compte des jugements d'authenticité pour ne nous attacher qu'à la relation des faits établis, d'après les témoignages des personnes qui les ont vécues ou étudiées. Alors, apparition mariale et phénomène ovni. Soulignons d'emblée qu'en l'instar du phénomène ovni, les apparitions mariales sont, premièrement, beaucoup plus nombreuses qu'on ne veut l'admettre généralement, pour des raisons invoquées plus haut, parce que, voilà, on met ça sous le tapis. Deuxièmement, présentes dans le monde entier, quelle que soit la nationalité ou les croyances des voyants. Troisièmement, mal acceptées par les autorités religieuses ou autres, qui s'efforcent le plus souvent de minimiser leur impact sur le public. Toutefois, ces points communs ne suffisent pas à établir une relation définitive entre les deux phénomènes, certes. Il est donc nécessaire d'approfondir chacun d'entre eux pour découvrir leurs troublantes similitudes qui se rapportent principalement à l'observation de phénomènes célestes hors du commun, au puissant contrôle mental et physique subi par les témoins et à des événements défiant les lois fondamentales de la physique terrestre. Et les exemples que nous allons étudier ici vont justement illustrer ces différents aspects. Cela même que les chroniqueurs des apparitions mariales relaient habituellement au second plan, parmi les éléments du décor, alors qu'ils peuvent se révéler décisifs dans la compréhension de ce mystère qui dépasse largement le cadre de la foi. L'histoire, par exemple, des trois petits voyants de Fatima, petit village du Portugal, situé au nord de Lisbonne, prénommé Lucia, qui avait 10 ans, Francesco, 9 ans, et Jacinta, 7 ans, a fait le tour du monde. Il est inutile de la rappeler, ni de revenir sur les innombrables déboires auxquels ont dû faire face ces trois enfants devenus involontairement les jouets de la divine providence. Essayons plutôt de concentrer notre attention sur le fameux miracle du soleil, survenu le 13 octobre 1917. Nous allons pour cela utiliser les informations fournies par le livre de Jean-Claude Nesmi, La vérité de Fatima, à travers lequel se révèle clairement le sentiment des hommes d'Église vis-à-vis de ce phénomène ufologico-religieux. La foule qui assista au miracle comprenait environ 50 000 personnes, issues de toutes les classes sociales, et des savants sceptiques côtoyaient aussi bien des paysans crédules que des journalistes anticléricaux. D'après l'ensemble des témoignages, l'astre du jour apparut au travers des nuages en prenant l'apparence d'une plaque d'argent mat ou d'un disque nacré à l'arête vive. Puis, il entama sa danse en tournant rapidement sur lui-même, tout en envoyant vers la terre des faisceaux lumineux qui donnaient au paysage des couleurs fantastiques. Le balai céleste se poursuivit jusqu'à cet instant terrible où le soleil, devenu rouge sang, parut se détacher littéralement du ciel pour venir fondre sur la foule terrifiée. N'oublions pas, il y avait 50 000 personnes. Après un tel spectacle, pas une seule personne ne songeait encore à douter du caractère surnaturel de l'événement. Et on ne peut qu'adhérer à l'opinion de Jean-Claude Nesmi quand il déclare que le miracle de Fatima ne peut en aucun cas se résumer à une invention de curé, comme l'auraient prétendu certains rationalistes en manque d'explications rationnelles. En revanche, il est assez facile de répondre à cette interrogation de l'auteur. Qui donc n'entendit jamais parler de semblables phénomènes depuis que le monde est monde? Face à ce genre de questions, n'importe quel ufologue sera en mesure de rétorquer que ce n'est pas un phénomène semblable, mais des milliers que l'on a recensés à travers le monde, et que le nombre des témoins ne se limite pas à quelques 50 000 personnes, ce qui est déjà pas mal, mais concerne des millions d'individus originaires de tous les pays. Néanmoins, on ne saurait reprocher aux hommes de Dieu de méconnaître les aspects du phénomène OVNI au point de n'avoir aucune idée de ses manifestations. Mais sont-ils censés ignorer l'existence d'autres apparitions mariales durant lesquelles se sont déroulés des événements similaires et tout aussi spectaculaires que ceux de Fatima? Ce fut pourtant le cas de plusieurs d'entre elles, notamment des apparitions de Casanova Stafora en Italie, de Melleray en Irlande et de Borrelio en Sicile, qui, en dépit de leur caractère exceptionnel, restent encore très peu connus du grand public. Les apparitions mariales et cas miraculeux donc à travers le monde. Les apparitions de Casanova Stafora ont débuté le 4 juin 1947, pour ne cesser que 9 ans plus tard, le 4 juillet 1956, avec un nombre record de 85 apparitions. La principale bénéficiaire en fut une enfant âgée de 7 ans, du nom d'Angela Volpini, mais 15 à 20 personnes témoigneront avoir vu les traces de pieds laissées sur le sol par la dame venue du ciel, et encore 5 à 6 000 personnes assisteront à l'incroyable balai aérien qui se déroulera le 4 octobre 1947, soit presque 30 ans après le miracle solaire de Fatima. Ce jour-là, la mère d'Angela avait décidé d'empêcher sa fille de se rendre à son rendez-vous avec la Vierge, estimant que cette comédie avait assez duré. Mais un événement inattendu allait inciter le père de la fillette à l'amener lui-même sur les lieux de l'apparition, au lieu dit le Boco. Et cela contre la ferme opposition de sa femme. Ce qui poussa cet homme à agir de la sorte, c'est l'incroyable spectacle qui, entre-temps, était apparu dans le ciel devant une foule en proie à une réelle panique. Le soleil entre guillemets, commença par tomber, après avoir perdu son éclat naturel, et la température se mit très vite à augmenter. Des disques incandescents se détachaient ensuite de l'astre pour aller évoluer au-dessus de l'endroit où était retenue la petite Angela, tandis que Bocco, le ciel et la terre avaient pris la couleur du sang. Lorsque finalement le père d'Angela arriva sur les lieux en compagnie de sa fille, la situation redevint rapidement normale. Cependant, il resta dans le siècle un disque qui s'immobilisa durant un moment pour finir ensuite par disparaître. Au cours de ce laps de temps, Angela fut bien évidemment la seule à voir sortir la Vierge de ce disque. Mais toutes les autres personnes présentes ont bien été témoins des évolutions du mystérieux objet volant. Remarquons enfin que les événements de Casanova Stafora ont débuté au cours de cette fameuse année 1947. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? 1947, bien connu des ufologues pour l'observation de Kenneth Arnold et le désormais célèbre crash de Roswell, où les apparitions mariales n'ont jamais été aussi nombreuses. Tiens, tiens. J'ai dit tiens. C'est à l'intérieur d'une petite grotte située tout près du mont Melleray, cette fois-ci en Irlande, que la Vierge est apparue pour la première fois à une jeune fille de 17 ans, Urzaba O'Rourke, le soir du 16 août 1985. Quelques jours plus tard, elle se manifestera aussi à deux jeunes garçons âgés de 12 et 11 ans. Les apparitions auront lieu chaque soir devant les enfants, en présence d'une foule toujours plus grande. Mais c'est au cours d'une procession du rosaire effectuée le 4 mai 1986 que se produisit le premier grand miracle de Melleray. Nous citerons ici le témoignage d'un témoin oculaire, tel qu'il est rapporté dans le livre « Notre-Dame apparaît en Irlande » à Melleray. Nous lisons. Pendant la récitation du rosaire, les nuages bas de l'après-midi se déchirèrent et le soleil apparut. Mais ce n'était pas un soleil ordinaire. On aurait plutôt dit une assiette ou un disque blanc, ou mieux encore, une hostie. Il descendit en direction de la grotte et sembla se poser sur son rebord. Voyant cet événement insolite, les gens se mirent à dire « Regardez le soleil ». On en vit beaucoup se signer. Certains se mettaient à genoux tandis que d'autres pleuraient d'émotion. Le soleil sembla tourner très vite dans le ciel gris pour réapparaître au bout d'une quinzaine de secondes et revenir avec des mouvements saccadés, comme s'il avançait et reculait légèrement pour avancer de nouveau. Cette seconde fois, le soleil ne revint pas aussi près que précédemment et on put observer qu'il irradiait de magnifiques couleurs sous forme de rayons bleus, rouges et dorés, mais qui n'aveuglaient pas les yeux. Puis, progressivement, il alla reprendre sa place dans les nuages où il disparut. Pendant une dizaine de minutes, à la suite de cela, une ravissante couleur orange dorée se diffusa dans la grotte. On est en plein fantastique, là. L'affaire aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur la volonté du ciel qui, apparemment, l'entendait d'une autre manière. Il y eut ainsi plusieurs miracles solaires, comme celui du 1er juin 1986, où l'on vit le soleil se mettre à tourner et à danser dans le ciel, ou encore celui qui eut lieu le 15 juin 1986, avec pour témoin principal un homme nommé Donald K. Leher, qui en fit la description suivante. Je cite « Le soleil brillait dans un beau ciel clair. Quand je l'ai regardé au début, il brillait normalement. En l'espace d'une ou deux secondes, son éclat s'est estompé et il a pris l'apparence d'un disque jaune pâle, dont la périphérie brillante tournait sur elle-même. Le disque s'est avancé vers nous pour s'arrêter un instant au sommet de la grotte et repartir prendre sa position initiale dans le ciel, mais un symbole en forme de ballon de distillation prit la place du disque, le goulot du ballon étant dirigé vers le sud, au-dessus de Kapokin, tandis que la partie renflée prenait la forme et la couleur d'un cœur vivant qui palpitait. Immédiatement, derrière le cœur se trouvait un nuage noir et rouge rosé qui était en effervescence. Quelques minutes plus tard, le cœur éclata comme une fusée de feu d'artifice, remplissant l'horizon d'une teinte rouge rosée. À ce moment, le nuage noir s'était dissipé. le phénomène se répéta à un intervalle de 2 à 3 minutes. Toutes les personnes à qui j'en ai parlé, à l'exception d'une seule, ont eu la même vision, certaines même à un degré beaucoup plus intense que moi. Alors qu'en penser? Ces quelques témoignages sont suffisamment convaincants pour montrer que les apparitions de Melleret méritent largement d'accéder à la notoriété de Fatima et qu'il est totalement incompréhensible que l'Église ait refusé de reconnaître le caractère, entre guillemets, divin de faits aussi extraordinaires. Notre troisième et dernier cas de miracle solaire diffère légèrement des deux précédents car, contrairement à ceux de Casanova Stafora et de Melleret, il ne mentionne pas un comportement anormal du soleil, mais seulement la présence d'un objet volant non identifié qui se transforme en soleil. Tiens, tiens. Et ce type de métamorphose prouvant clairement que ces appareils sont parfaitement en mesure de se faire passer aux yeux de tous pour notre astre solaire. Cette réflexion mérite un intérêt particulier. Et c'est le 1er février 1988 qu'il s'est produit à Borrelio, en Sicile, ce phénomène tout à fait digne de figurer dans les annales de l'ufologie. Suite à une apparition de la Vierge aux environs de midi, un objet lumineux est apparu dans le ciel avant d'effectuer une descente en zigzag et de remonter en augmentant très fortement sa luminosité, de telle façon qu'il prit l'apparence d'un second soleil. Puis il revint dans la direction du vrai soleil, avec lequel il se confondit pour donner naissance à un double soleil. Près de 50 000 personnes auraient assisté à ce prodige qui, par la suite, devint de plus en plus fréquent dans les affaires d'apparition mariale. Nous pourrions continuer à relater d'autres cas où, entre guillemets, les véhicules de la Vierge se sont longuement exhibés à la vue d'un très large public comme la grotte dite des Trois Fontaines à Rome, en Italie, à Garabandal en Espagne, à Medjugorje, en ex-Yougoslavie. Mais les cas que nous venons de citer sont suffisamment édifiants pour donner au lecteur une idée assez précise de cet aspect du phénomène. Nous allons donc poursuivre notre étude en évoquant à présent ces étranges phénomènes lumineux et sonores qui précèdent ou accompagnent les visites de la Vierge. Alors, signe extérieur à l'apparition. Ils sont souvent visibles par tous et sont aussi multiples que variés. Néanmoins, ils répondent constamment à un schéma précis mettant en scène tout un ensemble de manifestations que l'on croyait jusque-là réservées au seul domaine des ovnis. C'est-à-dire, brusques coups de vent, éclairs ou coups de tonnerre à part temps clair. Apparition de lumières vives, de globes de feu ou d'étranges nuages, arrivée soudaine de pigeons ou de colombes lumineuses, qui se déplacent très rapidement, chants d'oiseaux, silence inhabituel. Comme il est impossible de recenser l'ensemble de ces phénomènes, lesquels se comptent par dizaines, nous ne citerons que quelques cas parmi les plus représentatifs. En 1580, faisant suite à une apparition de la Vierge à un jeune homme de Zeitel, en Suisse, le mont Curvert se nimba d'une lumière inexplicable durant plusieurs nuits. Notre-Dame des Lumières, en Luberon, dans le Vaucluse, hérita de ce vocable en raison des observations répétées de lumière inexplicable dans une ancienne chapelle qui fut par la suite restaurée. Le 13 septembre 1917, à Fatima, un mois avant le miracle du soleil, des témoins ont aperçu un globe lumineux glissant lentement et majestueusement dans l'espace, et des petites formes blanches que certains ont prises pour des colombes ou des pétales semblables à des flocons. En 1968, à Zaïtoun, en Égypte, chaque apparition de la Vierge était précédée ou suivie de lumières mystérieuses ou de la venue d'un globe lumineux. Il y avait aussi des créatures ressemblant à des oiseaux plus gros que des colombes d'un blanc immaculé lumineux. Ces formes volaient plus vite que des colombes, sans un battement de leurs ailes déployées. Elles semblaient glisser dans l'air plutôt que de voler. Elles se disposaient en formation, en triangle, en croix ou en ligne parallèle. Comme dans les manifestations ovnis, on est dans le même cas de figure. En 1980, à Cuapa, dans le Nicaragua, la statue de la Vierge s'illumina tandis que des éclairs et la présence d'un petit nuage annonçaient l'arrivée de l'apparition. On put également observer dans le ciel un grand cercle de lumière qui dirigea un fort rayon lumineux vers le sol. À Medjugorje, on a rapporté à plusieurs reprises la présence de boules de feu émettant des flashs lumineux. Nous terminerons cette courte liste en mentionnant les miracles durant lesquels interviennent des lumières d'origine inconnue, comme à Bétaram, sanctuaire situé au cœur du Béarn, tout près de Lourdes, où en juillet 1616, un inexplicable et soudain coup de vent renversa au sol la croix dressée en haut du calvaire. Le tourbillon ayant cessé, aussi brusquement qu'il avait commencé, la croix se releva d'elle-même, entourée d'une aura lumineuse éblouissante. Cinq personnes ont assisté à ce miracle, que l'on pourrait qualifier de prémédité, étant donné que la bourrasque a sûrement été déclenchée intentionnellement pour permettre le redressement miraculeux de la croix devant les témoins médusés. L'accumulation de tous ces faits prouve, s'il en était encore besoin, qu'il existe une relation étroite entre les apparitions à caractère donc religieux et les manifestations d'OVNI. Mais les concordances ne s'arrêtent pas là, car lorsque les voyants se trouvent en présence d'une entité qu'ils identifient étant la Vierge Marie, ils sont confrontés à une situation semblable à celle des contactés, des abductés, quand ces derniers se retrouvent face à des êtres qu'ils prennent pour des extraterrestres. Dans les deux cas, le choc provoqué par une situation aussi anormale leur fait perdre le contrôle d'eux-mêmes et ils passent alors plus facilement sous l'emprise de l'intelligence extérieure venue bouleverser le cours de leur vie. C'est la raison pour laquelle les personnes concernées ne sont pas en mesure de fournir des témoignages réellement objectifs et dépourvus de toute influence extérieure. Quelques récits donc de témoins. Il suffit d'écouter les récits des voyants décrivant des sensations particulières qu'ils ont éprouvées lors de l'apparition pour comprendre combien ces acteurs involontaires, et à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'enfants ou d'adolescents, deviennent vulnérables face à la puissance irrésistible qui s'empare à la fois de leur corps et de leur esprit. Voici un témoignage. « J'aime beaucoup voir l'ange. Mais le pire est qu'ensuite, nous ne sommes plus capables de rien. Je ne pouvais même plus marcher. Je ne sais pas ce que j'avais. La force de Dieu était si intense qu'elle nous absorbait et nous anéantissait presque complètement. Elle paraissait nous priver de l'usage des sens corporels, et cela pendant un long espace de temps. Je ne sais pas ce que j'éprouve. Je ne peux pas parler, ni chanter, ni jouer, et je n'ai plus de force pour rien. » Ce sont des témoignages de Francesco, Lucia et Jacinta après leur rencontre avec l'ange de lumière survenu au cours des deux années précédant les apparitions de la Vierge à Fatima. « Je n'entendais plus le murmure de l'eau dans le ruisseau. J'étais envahi par un sentiment étrange qu'il est difficile de décrire. » En sortant plus tard de la maison de ma sœur, à Willerstan, je suis tombé au bord du sentier, complètement étourni. Voilà le témoignage d'Ursula Rourke en Melleray. Je restais immobile, je ne pouvais courir ni crier, je ne pouvais pas bouger ma langue, je me sentais comme endolori, j'avais la mâchoire inférieure complètement raide et la langue comme endormie. Quand la Vierge donna sa lumière avec ses mains, je pus alors bouger ma langue. Dans la nuit, j'entendis une voix qui me disait de dire tout ce que j'avais vu et entendu. Je me souvenais de tout, comme si cela s'était imprimé en moi. Je ressentis en moi une grande émotion, toujours celle qui m'habite quand s'approchait le moment de la voir. Ce témoignage de Bernardo à Cuapa. Mes facultés étaient comme paralysées et ma voix se mourait dans ma gorge. De ce discours extraordinaire, je n'ai pu oublier aucune syllabe. Il est resté gravé dans mon esprit. C'était comme un disque qui se répétait en moi. Témoignage de Bruno Cornacciola à la grotte des Trois Fontaines. Après ces paroles, la dame donna à Barbel l'ordre de faire connaître ce message au monde entier. Mais Barbel lui dit « Je ne puis pas me souvenir de tout cela. » La dame répliqua « En temps voulu, tu retrouveras les paroles exactes. » Il se vérifia au cours de la semaine et des jours suivants que Barbel avait les paroles du message gravées en elle. elle put répéter sans peine et sans effort de mémoire, mot à mot, les paroles de la dame. Témoignage de Barbel Ruess à Mère Emfred. Alors, ce témoignage relatant l'étrange abattement physique qui s'empare des voyants et cette étonnante faculté à retenir les messages qu'on leur a confiés nous indique clairement que le contrôle exercé sur ces derniers se poursuit bien après la fin de l'apparition. De la même manière, les abductés ont la sensation de rester sous l'emprise de leur ravisseur une fois l'enlèvement terminé. Autre point commun entre les voyants et les abductés d'OVNI, les visions prophétiques d'ordre apocalyptique, lesquelles marquent profondément la conscience des personnes concernées, les rêves dirigés, n'appartenant visiblement pas au simple domaine onirique, et les injonctions inconscientes destinées à téléguider le témoin jusqu'au lieu où doit s'établir le contact avec les entités. Enfin, on comprend aisément que le fait de vivre une telle expérience peut avoir, comme c'est très souvent le cas, de très fortes répercussions sur la vie future des voyants ou des abductés, évidemment. Cela modifie grandement le caractère de ces individus, mais aussi et surtout leurs convictions profondes. En fait, quiconque se retrouve confronté à ce type de situation en ressort véritablement transformé, et l'on peut se demander si ces prétendues interventions divines ou extraterrestres ne cacheraient pas une ambition plus vaste, à savoir la modification progressive des croyances de l'humanité tout entière. Et quelle meilleure façon de marquer profondément les esprits en montrant que l'impossible peut parfois se réaliser. Ce pourrait être là l'objectif de ces événements connexes qui surviennent dans le cadre des apparitions en venant renforcer considérablement leur impact aux yeux des fidèles. C'est ainsi que dès le début des apparitions à Zaytoun, les guérisons miraculeuses se sont multipliées très rapidement. Il y eut des muets qui se mirent à parler, des aveugles recouvrant la vue, des paralysés ayant retrouvé l'usage de leurs membres, et même des cancéreux, dit-on, qui bénéficièrent d'une complète rémission. D'autres personnes atteintes de graves maladies nerveuses, cardiaques ou de malformations physiques irrémédiables, furent instantanément et définitivement guéries, au grand étonnement des médecins, qui s'avouèrent incapables d'expliquer ces guérisons spontanées. Seulement, parmi la quantité de miracles qui se sont régulièrement produits durant ces derniers siècles, nous savons que l'Église romaine n'en a reconnu officiellement qu'un nombre infiniment restreint, et toujours à la suite d'enquêtes extrêmement rigoureuses pouvant s'étaler sur plusieurs années. Quant aux guérisons miraculeuses, survenant dans un cadre totalement extérieur à la religion, comme cela se produisit dans certaines rencontres rapprochées, dont la plus connue est celle certainement du docteur X, il est évident qu'aucun ecclésiastique ne songerait à y voir l'action de la volonté divine, bien que leur caractère demeure tout aussi inexplicable. Nous allons faire une petite pause dans ce dossier vraiment énigmatique et qui ne touche d'ailleurs pas que les gens qui ont la foi et qui nous font rappeler certains phénomènes étranges d'OVNI. Je vous parlerai de quelques prodiges de la Vierge après notre pause musicale.
Tiempo hace, mujer, que persigo tu querer. Para ver la taranquera, me he quedado sin comer. Parado en la taranquera, me he quedado sin comer. Eso yo lo hago por ti, me da pena y me lo callo. También se quedó con hambre, en la puerta mi caballo. También se quedó con hambre, en la puerta mi caballo. como yo era, contigo me he puesto bobo. Cualquiera vio un rebalón, mete la pata en un hoyo. Cualquiera vio un rebalón, mete la pata en un hoyo. Tiene trastornada, yo te lo digo Anacleto, échame pa' acá tu boca, te voy a chupar un beso, échame pa' acá tu boca, te voy a chupar un beso. Sorprendes, yo no esperaba tal cosa. Qué bonita está la tarde, me voy a casar tojosa. Qué bonita está la tarde, me voy a casar tojosa. Tengo guardado en casa frituras de bacalao.
Les prodiges de la Vierge. Si la Vierge semble capable de tous les prodiges, il en est certains qui sont plus spectaculaires que d'autres. Et l'on peut aisément ranger dans cette catégorie ces extraordinaires passages au travers la matière, qui vont à l'encontre des lois les plus élémentaires de la physique. Mais que la Vierge traverse les murs, les toits des maisons ou les parois des grottes n'en soit rien de surprenant, si c'est un être immatériel. Là où l'affaire se complique, c'est quand les voyants font preuve de capacité indiquant qu'ils ne sont plus du tout soumis à la réalité matérielle. Comme durant l'été 1873, à Saint-Bauzille-de-la-Sylve, un petit village est situé près de Béziers, lorsque la Vierge apparut à un ouvrier vigneron nommé Auguste Arnaud. Celui-ci a réalisé une curieuse prouesse devant des témoins stupéfaits, ainsi que le rapporte Yves Chiron dans son enquête sur les apparitions mariales. Je cite « Le voyant est emporté avec une rapidité effrayante vers la croix, directement en ligne droite à travers les souches et les ceps, qui étaient alors dans toute leur vigueur enlacés les uns dans les autres. » Auguste lui déclarera « Tout à coup, à 2 mètres devant moi, j'aperçus de nouveau la même personne de la première apparition. À peine l'eus-je vue que, rapide comme l'éclair, elle le fut sur la croix, me trouvant toujours devant elle à la même distance de 2 mètres. Je ne sais, je ne puis comprendre comment je me suis trouvé là, ni comment j'ai parcouru la distance qui me séparait du lieu où j'étais d'abord, de la croix au pied de laquelle je me suis ensuite trouvé. » Mais un événement encore plus incroyable allait se produire à Zeitoun, où la Vierge aurait sauvé un enfant d'une bien étrange façon. Une mère et son enfant avaient décidé d'aller au Caire pour aller visiter l'église de la Vierge à Zeitoun. Ils ont pris le train et une station à 8 kilomètres du Caire. Les gens ont bousculé la dame et son fils, et ils se sont retrouvés par terre, hors du train. La femme était tombée un peu à l'écart. L'enfant, par contre, était sur la voie. Quand la mère a vu son enfant dans cette situation, alors que le train allait partir, elle a crié et s'est évanouie. Et quand elle est revenue à elle, elle a retrouvé son enfant à côté d'elle, il disait « Maman, maman !» La mère a dit à son enfant toute surprise « Mais comment as-tu fait pour te sauver ?» J'ai vu près de moi une dame habillée de blanc. Son visage était plein de lumière. Elle a posé sa main sur ma tête et je me suis baissé. Le train est passé, il y avait 6 wagons. Et j'ai entendu la dame me dire « N'aie pas peur, je suis ta mère la Vierge ». Et quand le dernier wagon est passé au-dessus de moi, je me suis aperçu que la dame avait disparu aussi. Mais je sens encore ses mains si tendres qui caressent ma tête. Il y a au secrétariat de l'Église un document sur ce miracle, contenant le témoignage de la mère et la photo de l'enfant, avec des traces sur son dos. Les traces sur le dos de l'enfant étaient là pour prouver que le train avait bien roulé sur lui. Autrement dit, l'engin fut assez réel pour laisser la marque de son passage, tout en perdant toute consistance physique pour l'enfant. La question qui se pose alors est la suivante. La Vierge ou la puissance se cachant derrière l'image de la Madone, agit-elle sur l'environnement extérieur du voyant ou sur le voyant lui-même? Quoi qu'il en soit, on ne peut s'empêcher d'établir une nouvelle fois un parallèle avec les affaires d'abduction, lorsqu'au début et à la fin de l'enlèvement, l'abducté se met à jouer les passe-murailles avec l'aide de ses ravisseurs. Au sujet de ces incroyables expériences, l'abductologue David Jacobs nous fournit un très précieux indice. Je cite. Au cours d'un enlèvement nocturne, les extraterrestres commencent par apparaître sous forme d'une petite lumière entrant par la fenêtre. Comment une lumière peut-elle transformer et transporter de la matière? Cela demeure un mystère pour nous. La victime se retrouve ensuite en train de flotter au-dessus de son lit. Elle est attirée par cette lumière qui l'enveloppe. Les petits êtres la suivent. Sans plus d'hésitation, tout le monde s'envole comme des passe-murailles à travers les fenêtres closes. La victime n'éprouve pas de sensation physique particulière en traversant la matière. Très étrange, n'est-ce pas? Il semblerait en effet que la lumière soit l'élément clé de la dématérialisation. Une hypothèse qui se conforte à la lecture de l'ouvrage d'Henri Durand, son livre qui s'appelle « Les dossiers des ovnis », dans lequel nous découvrons de nombreuses informations concernant ces mystérieux rayons ou faisceaux lumineux. Selon Durand, il y aurait différentes sortes de rayons, comme les rayons éclairants semblables aux faisceaux lumineux produits par nos phares ou projecteurs. Bon, on appellera ça de la lumière banale. Les rayons paralysants, là ça devient plus compliqué. Les rayons calorifiques et ceux qui perturbent le fonctionnement des circuits électriques de voitures. Mais les plus curieux de tous sont certainement les rayons qui traversent les murs, tels que ceux ayant été observés à Trancas en Argentine, où une nuit du mois d'octobre 1963, des ovnis ont émis une lumière qui traversait les murs des maisons et pénétrait dans les pièces sans fenêtres en les illuminant comme en plein jour. Ce type de phénomène inspirant aux chercheurs Fouéré le commentaire suivant. Disons tout de suite qu'il nous paraît évident que ce que les témoins ont appelé « lumière » n'est pas de la lumière au sens usuel du terme. Nous ne connaissons pas de lumière visible qui soit capable de traverser les murs. Un flux très intense de neutrons peut traverser un mur. Mais des sujets frappés par un flux suffisamment intense pour donner lieu à un tel phénomène auraient été voués à une mort irrémédiable. Devrons-nous renoncer à comprendre cette nouvelle et stupéfiante énigme? Pour l'instant, l'énigme reste insoluble. Mais une chose est sûre, ces lumières venues d'ailleurs font partie intégrante du phénomène ovni comme des apparitions célestes et mariales. D'ailleurs, les voyants mentionnent presque toujours la merveilleuse lumière qui accompagne la Vierge, irradie son visage ou ses mains. Celle-ci pouvant avoir des effets très particuliers sur les personnes, ainsi que le suggèrent ses témoignages. À quoi pas, par exemple. Quand elle donna sa lumière, je pus alors bouger ma langue. Ou encore, aux Trois Fontaines, au milieu de cette obscurité, j'ai vu une petite lumière qui allait en s'agrandissant et en s'intensifiant. Elle illuminait tellement la grotte que je n'en voyais plus ni les parois ni l'intérieur. Au même moment, j'étais rempli d'une joie que je n'avais jamais éprouvée. Les voyants ont conscience qu'ils n'ont pas affaire à une lumière ordinaire, et ils ne manquent jamais de souligner sa nature exceptionnelle, qu'ils ne peuvent expliquer autrement que par son origine surnaturelle. Seulement, ce qui ne vient pas de notre monde ne provient pas forcément de Dieu. Et voilà. Toutefois, d'un point de vue symbolique, la lumière est bien sûr l'attribut majeur de la divinité et de l'Esprit Saint apporté aux hommes, l'illumination. De même que nous retrouvons l'association Vierge-Lumière dans la tradition de la fête des Lumières que l'on célèbre le 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception. Mais maintenant, on peut s'interroger, mais quel est le but de ces manifestations? Mais oui, parce que s'il y a intelligence et manifestation, dans quel but? Jusqu'à présent, nous ne sommes intéressés qu'à l'aspect purement phénoménal. Voilà. On a décrit les phénomènes, les lieux. Mais maintenant, essayons de réfléchir sur le but de ces manifestations. Visiblement, la diffusion de messages à l'humanité. Et les confidences accordées par la Vierge ont pris une importance croissante depuis le XIXe siècle, avant d'atteindre leur apogée avec la révélation des fameux secrets, celui de Fatima étant le plus célèbre d'entre eux, et, en en croire certains auteurs, le plus inquiétant pour notre avenir. Mais qu'ils soient ou non destinés à être rendus publics, les messages possèdent toujours un caractère d'avertissement sur les problèmes actuels ou futurs, ces derniers étant jugés assez graves pour justifier une intervention céleste ou une apparition. Les voyants se transforment alors en intermédiaires chargés de faire connaître la parole de Dieu aux fidèles qui, curieusement, ne sont pas autorisés à l'entendre directement. Pour schématiser quelque peu la situation, on peut attribuer à la Vierge ou à toute autre entité spirituelle remplissant la fonction de messager le rôle de l'émetteur, chargé de transmettre les volontés divines et aux voyants, et celui du récepteur passif et involontaire. Quant à la foule des croyants, ils ne sont dans l'histoire que de simples auditeurs auxquels on accorde quelquefois l'immense privilège de devenir des spectateurs privilégiés, notamment au cours des grands miracles solaires se produisant, afin que tout le monde croit. Mais ce qui doit retenir notre attention, c'est la façon dont sont transmis ces messages et dans quelle mesure les voyants sont autorisés à les révéler. Tout d'abord, on remarque qu'en cette occasion, le phénomène devient extrêmement sélectif et que la nature de la communication dépend entièrement de la volonté de l'émetteur. Ainsi, lorsqu'il y a plusieurs témoins directs de l'apparition, la Vierge fait en sorte de leur délivrer individuellement un message particulier que les autres ne pourront entendre. À Fatima, par exemple, Lucia deviendra immédiatement l'interlocutrice privilégiée de la dame, au détriment de Francesco, qui, tout en l'envoyant, n'aura jamais la joie de l'entendre prononcer un seul mot. À la Salette, par contre, les choses se passeront un peu différemment. Les deux petits voyants, Mélanie Calvé et Maximin Giraud, entendront le message général de la Vierge, qui par la suite leur confiera séparément un secret que l'autre ne devra pas connaître. Et Maximin dira avec ses mots d'enfant, « Quand elle parlait à Mélanie, je n'entendais rien, et lorsqu'elle m'a confié mon secret, Mélanie est devenue complètement sourde. » Le fait que les voyants entendent uniquement les paroles qui leur sont destinées, sans que par ailleurs les spectateurs de la scène ne perçoivent quoi que ce soit, démontre bien que le dialogue ne s'effectue pas d'une manière ordinaire. Il est évident que les informations reçues ne sont pas transmises par le biais d'une banale communication verbale, mais qu'elles s'inscrivent directement dans l'esprit du voyant auquel la Vierge paraît avoir facilement accès. Mieux encore, celle-ci réalise parfois une véritable plongée dans l'inconscient des sujets pour y rechercher des souvenirs qui ont depuis longtemps disparu de leur mémoire, comme nous le démontrent les événements de la Salette. Par exemple, elle demanda aux enfants s'ils avaient déjà vu du blé gâté. Ni l'un ni l'autre ne se souvenaient en avoir jamais vu. Pourtant, la visiteuse rappela Maximin qu'il en avait vu une fois avec son père. Naturellement, cette intrusion dans les esprits se déroule à l'insu des voyants, mais on peut déterminer l'étendue de son action par certains effets secondaires. La modification complète et soudaine de la personnalité des témoins ou des agissements inhabituels, contraires à leur comportement normal, en sont quelques-unes des conséquences les plus directes. D'autres sont d'une nature plus subtile, puisqu'ils ne se révèlent que dans des circonstances déterminées, en devenant dès lors extrêmement difficiles à déceler. C'est le cas de la sécurité, destinée à empêcher les voyant de parler à tort et à travers des secrets qu'ils ont reçus. Les apparitions de la Salette nous offrent encore un parfait exemple de ce phénomène qui n'est pas sans rappeler les effets d'un conditionnement post-hypnotique. Jamais par la suite, les deux voyants ne se sont révélés l'un à l'autre leurs secrets. Quand on les a sollicités, parfois, en insistant de manière malhonnête, ils n'ont rien révélé. Une fois que Maximin, il avait alors 15 ans, allait céder à la tentation, on lui promettait un château et son parc en l'échange de la révélation du secret, il en fut empêché. « Hélas, a-t-il raconté, j'allais le trahir quand ma mémoire me fit défaut, et il me fut impossible d'articuler un mot. Je restais muet et compris ma faute par cet avertissement de la Sainte Vierge. » Ali le Bouchard, la petite Jeannot Aubry, réussit à expliquer simplement à son père, qui lui demandait de révéler son secret, l'étrange sensation qu'elle éprouvait. « Quand même, je voudrais te le dire, je ne pourrais pas. Ça s'arrêterait là, » déclara l'enfant en serrant sa gorge. Cette impossibilité de rapporter les paroles de la Vierge et ses soudaines pertes de mémoire sont d'autant plus incompréhensibles qu'elles se heurtent à un autre phénomène totalement contraire, qui consiste à accorder aux voyants une capacité mémorielle exceptionnelle. Sans cette étrange faculté, ces derniers seraient bien incapables de répéter mot pour mot les interminables messages confiés par la Vierge. De tout cela, il ressort que le psychisme des voyants reste constamment sous l'influence d'une volonté supérieure, à laquelle ils ne peuvent en aucun cas désobéir. Ayant perdu la maîtrise d'eux-mêmes, ils ne sont plus que de simples instruments téléguidés inconscients de leur état et de la tâche qu'ils doivent accomplir au service d'une puissance inconnue. Une puissance qui, en outre, ne serait nullement infaillible. Car si certaines prédictions ont bien eu lieu, comme la mort prématurée des deux petits voyants de Fatima, la plupart d'entre elles ne se sont jamais réalisées. Mais comment la Vierge, assistée par le Tout-Puissant, pourrait-elle se tromper ? Et voilà peut-être la plus grande énigme des apparitions qu'aucune église ne cherche à résoudre. Évidemment, ça les gêne. Sans doute pour ne pas remettre en cause l'infaillibilité du phénomène sur laquelle repose sa divine nature. Alors que conclure de tout cela ? Maintenant, le moment est venu de nous poser la question qui, à la vue des éléments exposés précédemment, s'impose à notre esprit. Est-ce que, oui ou non, la Dame des Apparitions est réellement la Vierge Marie, en personne venant offrir son aide à l'humanité, ou sommes-nous confrontés à quelque chose d'autre ? Et si oui, à quoi ? Réfléchissons un instant. Pourquoi la Vierge aurait-elle besoin de véhicules, semblables à des disques ou des nuages, pour se déplacer alors qu'elle n'est pas censée posséder un corps aussi matériel que le nôtre ? Pourquoi aussi n'apparaît-elle pas aux yeux de tous afin de convaincre les plus sceptiques et renforcer ainsi considérablement le poids de son intervention ? À moins qu'il ne soit plus facile d'agir sur l'esprit d'un nombre limité de personnes plutôt que sur ceux de toute une foule. Si c'est le cas, cela n'a plus rien à voir avec le pouvoir illimité d'une entité divine, mais avec l'utilisation d'une technologie qui, en dépit de ses prodigieuses capacités, n'en a pas moins sa limite. Enfin, pourquoi la Vierge ne cherche-t-elle pas à s'adresser à des membres élevés du clergé, ou à des hommes possédant de hautes responsabilités, plutôt que de choisir des enfants illettrés ou des adultes ayant un niveau d'instruction extrêmement bas, ces derniers étant beaucoup moins aptes à juger de l'importance de ces paroles? Notons, à de rares occasions, il y a eu des apparitions publiques, mais aucun message ne fut jamais délivré au cours de celle-ci. Là encore, il est beaucoup moins difficile d'influencer ou d'impressionner de jeunes gens incultes que des adultes suffisamment instruits pour faire la part des choses. Mais est-ce qu'une telle précaution est vraiment utile lorsqu'on est l'envoyé de Dieu ? Pour finir, il nous faut rappeler que, contrairement à ce que l'on croit généralement, les apparitions de type marial ne se manifestent pas uniquement chez les peuples de confession chrétienne. Et c'est ce que nous confirme la légende des Indiens Lakota ayant trait à la femme bison blanc, cette femme céleste qui flottait dans les airs, dans une robe dont les blanches peaux irradiaient une vive lumière. Tiens, tiens. Étant venue apporter aux Indiens non pas le rosaire, mais un objet tout aussi sacré à leurs yeux, le calumet. Ben, je vous laisse à vos réflexions devant ces révélations qui touchent le domaine, certes religieux, mais pas que, vous l'avez bien compris. Ça flirte très largement le phénomène OVNI. Donc si vous êtes un rationaliste convaincu, ben, vous serez un petit peu amusé en m'écoutant. Si vous posez des questions peut-être un peu plus sensibles, qui rapportent des choses un peu plus surnaturelles, eh bien cela fera certainement froncer les sourcils et vous amener d'autres questions. Quoi qu'il en soit, moi j'ai ma petite idée, bien sûr, mais je vous la dirai pas. Et je vous dis à la semaine prochaine.